Il y a tellement d'infos que je m'y perds.
Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même.
Souvent, je trouve que tout est trop superficiel.
Je pense qu'il y a trop d'infos et...
C'est très angoissant.
La première...
J'ai besoin de repères.
Les clés...
J'ai envie de comprendre.
Arnaud Reusson.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Clés avec une question aujourd'hui centrale pour l'Europe. Jusqu'où se réarmer? À quel point faut-il craindre la guerre sur notre sol face à une Russie conquérante et un Donald Trump qui non seulement ne veut plus nous protéger comme les États-Unis l'ont fait jusqu'ici, mais surtout semble se rapprocher de plus en plus de Vladimir Poutine. On sent que les Européens sont à la croisée des chemins. Doivent-ils se préparer à la guerre? Peuvent-ils construire à brève échéance une vraie défense européenne? C'est tout cela que nous allons explorer aujourd'hui dans cet épisode avec l'expert en stratégie militaire, Guillaume Ancel.
La première, les clés.
Doit-on vraiment se préparer à la guerre?
L'Europe est-elle en train de se préparer à la guerre?
La Russie aujourd'hui est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale.
It's time to shift to a wartime mindset.
L'Allemagne est en train de faire un inventaire de tous ses bunkers et aussi de ses abris, c'est-à-dire des caves, des garages, des stations de métro. En fait, ce sont des lieux stratégiques pour protéger sa population en cas d'attaque.
Depuis quelques semaines maintenant, on reparle donc de guerre en Europe et pas seulement dans les questions des journalistes. Parfois aussi dans les réponses des invités, comme lors de cette interview du chef de la défense belge, le général Van Sina, au micro de Thomas Gadisseux.
On n'est pas encore en temps de guerre, mais on n'est plus en temps de paix non plus. On est quelque part au milieu. Et quand on voit les actions russes, que ce soit les sabotages, la désinformation, les attaques cyber, tout ça fait qu'on ne peut plus dire qu'on est en temps de paix et qu'il faut se préparer. Il faut qu'on se rende beaucoup plus fort, aussi bien en tant que Belgique que comme Europe, pour dissuader un adversaire potentiel de nous attaquer.
Une réponse prudente, mais qui tranche quand même fortement avec ce que l'on avait l'habitude d'entendre ces dernières décennies, où quand on parlait de défense chez nous, on ne voyait plus très bien la perspective possible d'une guerre, si ce n'est des guerres lointaines auxquelles nos soldats allaient participer dans le cadre de coalitions internationales souvent très loin de chez nous. Non. Cette fois, c'est bien de la menace d'une guerre sur notre sol dont on parle. Et Emmanuel Macron, le président français, parlait d'ailleurs en ces termes à ses concitoyens il y a quelques jours.
La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Et partout dans l'Union, on reparle de choses que l'on croyait appartenir à un passé révolu, comme le service militaire.
Il avait été supprimé fin 1992, mais le service militaire est de retour, sur base volontaire cette fois. Le ministre de la Défense va inviter tous les jeunes de plus de 18 ans à venir passer un an à l'armée.
C'est dans l'accord de gouvernement que tous les jeunes de 18 ans reçoivent une lettre pour les demander de faire un service militaire de 12 mois, payé, volontaire. Ce n'est pas obligatoire, mais on va commencer avec ça, parce que c'est dans l'accord de gouvernement.
On va commencer avec ça, dit donc le ministre belge de la Défense, le NVA Théo Franken. Et on rappellera d'ailleurs qu'en Belgique, le service militaire n'a pas été supprimé, mais suspendu. C'était en 1995. Mais aujourd'hui, avec à la Maison-Blanche un Donald Trump dont on ne sait plus jusqu'à quel point il est encore vraiment un allié pour l'Europe, avec une Russie aux visées expansionnistes qui continue à développer fortement son armée pour le futur, on sent que le logiciel européen est en train de changer. Avec, en toile de fond, le proverbe latin « civis pacem, parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, ce qui, dans la bouche du secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte, donne ceci.
Pour éviter la guerre, nous devons nous préparer. Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre, ce qui veut dire que nous devons nous renforcer en dépensant davantage pour notre défense. Nous devons produire plus de capacités de défense et de meilleure qualité. La Russie veut affaiblir notre démocratie et notre liberté, et elle n'est pas la seule. Elle a la Chine, la Corée du Nord et l'Iran à ses côtés.
Et avec nous pour commenter tout cela, il y a Guillaume Mancel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien officier haut gradé de l'armée française, diplômé aussi de l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, et à ce titre donc expert en stratégie militaire. Et vous venez de sortir, Guillaume Mancel, un livre qui vient à point nommé, je lis son titre, « Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre » aux éditions Autrement. Alors j'ai envie d'abord d'évoquer avec vous l'état de la menace. Le général Van Sina, chef d'état-major en Belgique, disait « pour rassurer, il y a quelques jours, les chars russes ne sont pas encore à Bruxelles ». Alors, pas sûr que le choix des mots était très rassurant, justement. Est-ce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, selon vous, Guillaume Mancel, pour l'Europe, que la Russie veuille aller au-delà de l'Ukraine dans sa conquête de territoire, mais aussi dans son entreprise de déstabilisation de l'Europe ?
Malheureusement, ça n'est plus un risque, c'est une réalité. Et donc, et comme l'a remarqué le chef d'état-major des armées belges, nous ne sommes pas en guerre. Mais par contre, nous sommes menacés. Et on est obligé d'ouvrir les yeux sur le fait, comme l'avait dit Olaf Scholz, le chancelier allemand, au tout début de la guerre en Ukraine, on avait cru qu'on n'avait plus d'ennemis. Ben, malheureusement, ce n'est pas à nous de décider. Et puis maintenant, on réalise, avec Donald Trump, qui va probablement remporter le prix Nobel de la trahison, que nous n'avons plus d'amis non plus, et que cette espèce de garantie sur laquelle on reposait depuis des décennies, celle de l'OTAN, en fait celle d'une protection armée américaine qu'on payait plus ou moins, est terminée, surtout avec des gens totalement incontrôlables à la tête des États-Unis comme lui. Donc en fait, il ne reste que nous, 27 pays de l'Union européenne, plus la Norvège, la Grande-Bretagne et la Suisse, 30 armées en fait en Europe qui sont face à un choix crucial aujourd'hui. Est-ce qu'on se prépare réellement à devenir dissuasif vis-à-vis de ces empires menaçants, parce que à la Russie de Poutine succédera sans doute d'autres menaces, ou est-ce qu'on continue à se concentrer uniquement sur notre prospérité avec notre extraordinaire club de commerçants, l'Union européenne ?
Donc c'est ça la question qui se pose aujourd'hui pour les Européens. La menace de la Russie, c'est celle dont on parle aujourd'hui. Il y en a peut-être effectivement d'autres derrière, mais j'ai envie qu'on se concentre quelques instants là-dessus, Guillaume Mancel. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui l'état de la menace russe ? Parce que quand on regarde la Russie en termes de PIB, en termes de dépenses militaires, on se dit qu'a priori, normalement, les Européens devraient pouvoir faire face. Ils ont une économie beaucoup plus performante. Tous ensemble, ils dépensent plus que la Russie pour leur armée. Et on a en plus une Russie qui est en guerre en Ukraine déjà depuis un petit moment et a perdu beaucoup, beaucoup d'hommes sur le terrain ukrainien. Donc comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui l'état de la menace militaire russe pour l'Europe ?
En fait, je vais reprendre la formule de Donald Tusk, le premier ministre polonais, parce que je trouve qu'elle résume très bien la situation. On est 500 millions d'Européens qui demandons à 300 millions d'Américains de nous protéger de 140 millions de Russes. Nous vivons dans une situation totalement inversée. En fait, c'est eux qui devraient avoir peur de nous. Or, aujourd'hui, on voit bien que on a assuré notre prospérité pendant toutes ces décennies, pardon, mais on n'a absolument jamais parlé réellement de sécurité. Or, la menace russe, aujourd'hui, je dirais que elle est existentielle. D'abord, pendant toute la guerre en Ukraine, parce que pour moi, celle-ci est quasiment terminée, et par une défaite de l'Ukraine consacrée par Donald Trump, la menace a été nucléaire. Poutine nous a menacé plus de 130 fois d'utiliser des armes nucléaires pour nous stopper dans notre simple volonté d'aider, de protéger l'Ukraine. Donc ça, c'est une menace directe. Et j'entends encore tous ces partis d'extrême droite qui essaient de nous expliquer que pas du tout, Poutine est plutôt un allié, un partenaire, un ami, voire une référence. Pardon, mais il faut se demander pour qui il roule, parce que moi, ça me semble assez manifeste. Et puis, la deuxième menace, qui est très caractéristique, c'est que Poutine n'a pas de marche arrière. Il va s'arrêter là pour un cessez-le-feu que va imposer Trump, mais parce qu'il rafle la mise et que son armée, dans son état actuel, n'est pas capable de conquérir l'Ukraine, sauf si elle avait un siècle devant lui. Donc, Poutine a besoin de temps pour reconstruire son armée, et on sait tous en Europe, les analystes militaires, qu'il lui faut entre 3 et 5 ans pour le faire. Dès qu'il l'aura fait, il reprendra son offensive en Ukraine et probablement, comme il l'a déjà annoncé, il voudra libérer les minorités russophones qui sont dans les pays baltes, en Pologne, voire en Finlande, puisqu'il y est, contre ces dangereux nazis, comme il qualifie aujourd'hui tous les Occidentaux qui ont une démocratie. Par conséquent, soit on fait l'autruche pendant ces quelques années, on revient à nos mémoires de poissons rouges en espérant qu'ils disparaissent entre-temps, soit on prend la menace au sérieux et on se dit, est-ce qu'il ne serait pas grand temps d'avoir une défense européenne qui soit à la hauteur des enjeux? D'ailleurs, ça voudrait dire d'avoir un véritable projet politique pour l'Europe. Je disais tout à l'heure un peu cruellement que l'Union européenne est d'abord une association de commerçants. Elle a remarquablement organisé notre prospérité, mais elle est totalement inadaptée à une défense européenne.
Mais donc, si je comprends bien votre analyse, Guillaume Ancel, si on va à un moment donné vers un cessez-le-feu dans les semaines ou dans les mois qui viennent en Ukraine, ce que certains pourraient célébrer en disant bah, « c'est bien, on a arrêté les combats, on va arrêter les morts sur le terrain, c'est la paix qui va s'imposer », pour vous, c'est pas du tout ça la voie que veut suivre Moscou. Moscou, c'est pour gagner du temps, pour reformer une armée plus forte et pour continuer à avancer. Donc, quelque part, de cesser le feu, ce serait pire pour les Européens que de continuer la guerre si on regarde la menace sur un temps plus long, à moyen ou à long terme.
Oui, absolument. Trump veut imposer un cessez-le-feu parce qu'il veut montrer qu'il est le président le plus puissant des États-Unis et le plus puissant historiquement. Et par conséquent, il espère même avoir un prix Nobel de la paix. Mais il fait une confusion totale entre imposer un cessez-le-feu et établir une paix durable. C'est ce qu'il vient de faire au Proche-Orient avec Benjamin Netanyahou, à qui il a imposé un cessez-le-feu, mais on voit bien que le sujet de la paix au Proche-Orient est loin d'être acquis. En Ukraine, en fait, on s'attendait à une négociation du nouveau président américain, puisque la situation militaire est une impasse. Après 3 années de guerre, les Ukrainiens en l'état n'ont pas les moyens de chasser les Russes, et les Russes en l'état n'ont pas les moyens de soumettre l'Ukraine. Donc on s'attendait bien sûr à une négociation, mais on ne s'attendait pas à une trahison de Donald Trump. Parce que si vous regardez bien la situation, Trump n'a absolument rien exigé des Russes, juste qu'il s'arrête à un moment, et c'est quand même pas beaucoup, et par contre, il a tout pris sur le dos des Ukrainiens, en les traitant de tous les noms, et on voit bien qu'aujourd'hui, il essaie même de nous faire avaler, avec l'aide d'Elon Musk, qu'en fait, ce serait le président Zelensky qui serait responsable de la guerre, tandis que Poutine serait un héros de la paix. C'est quand même une légère inversion aussi de la situation. Donc, le cessez-le-feu qu'il va imposer, et à mon avis, pas dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, ou dans les semaines au maximum, mais ça n'ira pas plus loin que ça, les Ukrainiens n'y coupent pas. Pourquoi ? Parce que s'ils peuvent se passer pendant quelque temps des livraisons d'armes et de munitions américaines, ils ne peuvent pas se passer du renseignement américain. Le renseignement américain est le système global le plus puissant du monde et c'est celui qui a permis aux Ukrainiens pendant 3 années de ne jamais être surpris par les Russes. Depuis que Donald Trump a pris sa décision de stopper la transmission d'informations aux Ukrainiens, vous remarquerez que la situation sur le front se dégrade très très rapidement. Les Ukrainiens vont se faire cravater dans la région de Koursk parce qu'ils se font encercler par les Russes. Pour la première fois, ils sont plongés dans un brouillard total. Et faire la guerre quand on a un bandeau sur les yeux, c'est très compliqué.
Raison pour laquelle, selon vous, les Ukrainiens devront accepter les conditions, quelque part, de cette paix, qui n'en est pas vraiment une, mais de cesser le feu négocié en direct entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors parlons des Européens, maintenant, face à tout cela. On l'a déjà évoqué en partie, Guillaume Ancel. On a un espace de prospérité incroyable au niveau européen, avec un PIB pour l'Union européenne, je regardais les chiffres, qui est autour de 17 000 milliards d'euros, si on regarde les chiffres de 2024, c'est 8 à 9 fois plus que le PIB de l'économie russe. Si on regarde l'économie russe, son PIB est deux fois moins important que celui de la seule Allemagne. Donc si on regarde juste les données économiques du problème, on se dit qu'a priori, il y a un déséquilibre très très important. Si on regarde les dépenses militaires des Européens et qu'on fait l'addition de toutes les dépenses en défense de tous les pays européens, on voit qu'ils dépensent plus aussi, presque trois fois plus que la Russie pour leurs armées. Ouais. Et pourtant, on a l'impression d'avoir une Europe désarmée face à Poutine. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Je vais le dire simplement. Imaginons une seconde que les États-Unis n'aient pas une seule armée, qui est la plus puissante du monde à ce jour, mais 50 armées, puisqu'ils ont 50 États différents, et je ne compte pas le Canada. Tout le monde rigolerait à l'idée que l'armée du Texas veuille intervenir, mais que l'armée du Michigan se demande si c'est compatible avec ses équipements et son armement. En fait, l'armée américaine ne serait pas crédible. C'est exactement le cas de nos armées. Aujourd'hui, en Europe, il y a 30 armées différentes. Donc, quand les Européens se réunissent pour dire « on va dépenser plus », oui, très bien. Mais si c'est pour dépenser plus pour 30 petits jardins séparés, c'est pas ça qui fera une grande forêt. Or là, on a besoin de construire quelque chose de dissuasif, qui interdira à n'importe quel empire, et en commençant par l'empire russe de Vladimir Poutine, qui est l'héritier en réalité de l'Union des républiques soviétiques, c'est d'arriver à rassembler ces armées. Et pour les rassembler, on est face à un problème politique, parce qu'on ne peut pas rassembler des armées s'il n'y a pas une direction commune, s'il n'y a pas un projet politique commun. Or, on l'a déjà dit, l'Union européenne, c'est une association de commerçants. Elle n'est absolument pas conçue pour diriger une armée et prendre des décisions cruciales, par exemple celle de la dissuasion nucléaire. Par conséquent, on est obligé de franchir le Rubicon aujourd'hui et de réfléchir à est-ce qu'il n'est pas enfin temps de créer des États-Unis d'Europe en regroupant les pays qui le souhaitent, parce que ces pays ensemble auraient déjà une armée qui serait nettement supérieure à celle de la Russie. Donc la question, ce n'est pas tellement de dépenser plus. Bien sûr qu'il faudra faire un effort de défense. Je rappelle que les États-Unis, à ce propos, ne dépensent que 3,3% de leur PIB. Donc on n'est pas sur les chiffres qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Mais la question, c'est surtout de faire une armée cohérente qui peut être un rassemblement des armées des différents pays européens, mais il faut que son commandement, son organisation, sa structure, son équipement soient le même, et surtout que sa direction soit unique, sinon elle ne sera jamais crédible.
Alors ça, c'est ce que vous, vous préconisez, Guillaume Ancel. Et puis, il y a la réalité de ce que les Européens sont en train de discuter, de négocier ces derniers jours, ces dernières semaines. Et on va un peu résumer tout ça, ce qui a été annoncé justement par les 27. On va le faire en compagnie de Sarah Pousset.
Les 27 États membres de l'Union européenne se sont accordés sur un plan d'investissement proposé par la Commission européenne d'Ursula von der Leyen.
Nous voulons une force pacifique. Et c'est pour cela que je présente aujourd'hui aux dirigeants le plan de réarmement de l'Europe. Ce plan de réarmement prévoit jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense.
Ces 800 milliards d'euros pourraient être dégagés via différents mécanismes. D'abord, une série de prêts de l'Union à ses États membres pour un total de 150 milliards d'euros. Ce système serait un peu à l'image du large emprunt réalisé pendant la pandémie de Covid. La Commission européenne prévoit aussi d'abaisser ses règles en matière de déficit budgétaire pour permettre aux États membres d'augmenter leurs dépenses dans la défense sans craindre leur endettement. Enfin, la Commission fait appel à des fonds du privé, mais aussi de la Banque européenne d'investissement. Cet appel à se préparer à une guerre a en tout cas été largement entendu. L'Allemagne et son nouveau chancelier changent radicalement de cap. Ils assouplissent leurs règles sur l'endettement public en faveur de larges dépenses dans le secteur de la défense. En Belgique, l'Arizona avait comme objectif à long terme d'augmenter le budget de la défense jusqu'à 2% du PIB, comme c'est demandé par l'OTAN. Mais le Premier ministre Bart De Wever a décidé d'accélérer la cadence.
On est un mauvais élève, on doit le reconnaître, on fait beaucoup trop peu. On n'est même plus invité à certaines tables parce qu'on est un mauvais élève. Donc je vais présenter au gouvernement aussi vite que possible des plans pour aller aux 2% de dépenses pour la défense plus vite qu'on l'avait prévu. On l'avait prévu pour 2029, mais je crains que ce sera beaucoup trop tard et qu'on s'est réveillé dans un monde où l'Europe doit malheureusement se réarmer beaucoup plus vite.
La Belgique devrait donc trouver 4 milliards supplémentaires pour la défense d'ici cet été. 1 milliard d'euros viendrait déjà des économies effectuées au sein même du département. Et puis 3 milliards d'un fonds spécial. Il serait financé par les dividendes d'entreprises publiques perçues par l'État, par exemple de Belfius, ou carrément de la vente de certaines parts détenues par l'État de ces entreprises publiques.
Guillaume Ancel, on entend les réponses ici, les propositions, et on parle surtout d'argent, en fait, hein, de comment on va mettre plus d'argent sur la table pour la défense. Mais ce que l'on comprend avec vous, ce que vous venez de nous dire, ce que vous dites aussi dans votre livre, hein, Petite leçon sur la guerre, c'est que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est bien sûr un enjeu. Mais on a l'impression que ce que vous dites, c'est qu'à la fois, il y a la question de l'intégration européenne, des abandons de souveraineté pour les États, pour accepter de construire une vraie défense commune au niveau de l'Union, ce qui n'est pas simple en termes d'abandon de souveraineté, mais aussi, quelque part, le développement d'une sorte de culture de la guerre qu'on a un peu perdue. On ne considère plus que la guerre, ça pourrait nous arriver en Europe aujourd'hui.
Vous savez, aujourd'hui, la vraie puissance de Poutine, elle s'appuie sur la peur qu'il inspire. Parce qu'en réalité, comme vous l'aviez souligné en début d'émission, son armée est essorée par ces 3 années de guerre. C'est un pays qui a le PIB de l'Espagne et par conséquent, on ne devrait absolument pas le craindre. Pourquoi est-ce qu'il nous flanque la trouille ? Parce que, en fait, on a peur de lui parce qu'on n'a plus de culture militaire. Depuis des décennies, en France, par exemple, et je sais qu'en Belgique, c'est la même chose pour avoir fait le Collège Royal de Défense, on s'était intimement persuadé que la guerre ne nous concernait plus. Ça concernait les pauvres, le plus loin possible de nous. Or, la réalité, c'est que ce n'est pas nous qui choisissons d'être en guerre ou pas, ça n'est pas nous qui choisissons d'être menacés ou pas. Donc il faut revenir à une culture, je dirais moins de la guerre, qu'une culture militaire, c'est-à-dire que les hommes et les femmes de nos sociétés aient un bagage suffisamment important, comme le service militaire de volontaires qu'on évoquait en début d'émission, pour permettre aux gens de savoir de quoi on parle. Et surtout, face à une menace comme celle de Poutine, de ne pas avoir peur. Parce que ce que les Ukrainiens nous ont montré, une nation qui est 5 fois moins importante que la Russie, c'est que si on a l'esprit de résistance, on peut tenir face à tout. Mais par contre, il ne faut pas se faire trahir par ses amis ou compter sur des garanties qu'en réalité, on ne dispose pas. Et ça, c'est une question essentielle pour nous de savoir comment est-ce qu'on se met ensemble. L'autre question, c'est celle que traite Ursula von der Leyen au sein de l'Union européenne, parce que là, elle est compétente. C'est l'industrie de défense. Est-ce qu'on peut se permettre encore d'avoir de petites industries ? Finalement, si je faisais la comparaison avec l'aéronautique, imaginons 2 secondes qu'on ait encore des entreprises comme Latécoère, qui est un nom magnifique, pour faire compétition avec Boeing aux États-Unis. Tout le monde en rigolerait. Aujourd'hui, c'est Airbus qui nous permet d'être un vrai compétiteur international. Ça veut dire que pour ce qui est des industries de défense, c'est l'Union européenne qui, effectivement, doit constituer des conglomérats capable de nous fournir en série industrielle et plus en modèle d'orfèvrerie hors de prix, le matériel militaire dont on a besoin en nombre.
Donc il faut construire une vraie industrie de défense européenne, moins se reposer aussi sur le matériel militaire américain. On sait que la Belgique, par exemple, a fait l'acquisition de F-35, mais qui sont quelque part toujours un peu sous le contrôle des États-Unis, ces F-35. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de reprendre aussi la main en matière de matériel militaire dans ce qu'on construit, dans ce qu'on développe, et dans la façon aussi alors de pouvoir organiser l'interopérabilité entre les différentes armées des différents États membres de l'Union.
Et oui, c'est un enjeu crucial. On découvre consterné que les États-Unis ont une clé de contrôle sur tout ce qu'ils livrent. Les Britanniques, qui se sont toujours sentis très proches des Américains, n'ont plus accès aux renseignements sur la guerre en Ukraine parce que les Américains ne veulent pas qu'ils en passent aux Ukrainiens. Or, sans ce renseignement, ils sont aveugles. Leurs missiles nucléaires ont probablement une clé de blocage américaine, ce qui veut dire que si les Britanniques voulaient s'en servir, alors qu'un Donald Trump aurait décidé qu'en aucun cas on ne pourrait se défendre contre son ami Poutine, les missiles britanniques seraient inopérants. Et donc forcément, on se pose la question des F-35 qui ont des systèmes digitaux extrêmement développés, et on sait que certains dispositifs pourraient être neutralisés à distance par les Américains si quelque part on voulait les utiliser dans des missions qui n'auraient pas été approuvées par une nouvelle administration américaine. Donc ça nous pose la question de notre tout simplement autonomie, parce que c'est sûr que quand on est trahi par un ami comme les États-Unis, on est obligé de tout remettre en cause, mais je pousse plus loin. Est-ce que demain, il ne faut pas acquérir des systèmes informatiques qui nous permettent d'être totalement indépendants? Est-ce que demain, Microsoft, à la demande de l'État américain, ne peut pas bloquer l'utilisation de tous les logiciels Microsoft parce que un Donald Trump lui aurait demandé? C'est la question à laquelle font face actuellement les Ukrainiens, qui, vous le savez, repose sur le réseau satellitaire qui leur a été fourni par Elon Musk au départ gratuitement, après financé par l'armée américaine, et dont on réalise maintenant qu'il a créé une dépendance totale avec 40 000 terminaux en Ukraine, qu'on ne sait pas remplacer du jour au lendemain. Et donc, s'il fermait ce système de communication, les Ukrainiens, en plus, deviendraient muets.
On mesure, à ces exemples, à quel point les Européens ont confié l'essentiel de leur sécurité aux États-Unis et à quel point aussi ils ont désinvesti leur défense, rassurés par ce parapluie américain, un parapluie devenu brusquement beaucoup moins rassurant depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, on vous conseille ce livre signé Guillaume Ancel, Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est le titre de cet ouvrage publié aux éditions Autrement. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore Antoine Duhartz, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reusen. Si vous souhaitez nous écrire une adresse, lesclés@rtbf.be. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous.